Micro-organismes qui constituent un véritable univers intérieur avec lequel nous vivons et vieillissons. La flore intestinale, ou, pour employer le terme scientifique, le microbiote intestinal. Ces termes, parfaitement synonymes, représentent l'ensemble des bactéries qui vivent dans notre tube digestif. Notre mode de vie, notre alimentation, nos conditions d'hygiène évoluent de plus en plus vite, si vite que nos bactéries ne peuvent pas suivre le rythme. La théorie hygiéniste suppose que cette évolution rompt la symbiose qui existait entre l'homme et ses bactéries. L'augmentation du niveau d'hygiène des populations, liée à une diminution des infections et des épidémies, à une alimentation plus stérile, à une eau plus saine, bref, à une moindre exposition aux microbes, va modifier nos défenses immunitaires. Nous ne sommes plus habitués à nous défendre contre les infections. De plus, parallèlement à l'amélioration de notre niveau d'hygiène, notre alimentation s'est profondément modifiée. Alors que l'homme préhistorique chassait ou cueillait et était exposé aux famines, nous sommes face à une inédite surabondance alimentaire. Les aliments dont nous nous nourrissons, souvent issus de l'agriculture intensive, sont transformés, et nous voici exposés comme jamais au sucre, aux graisses, aux édulcorants et autres additifs alimentaires. Nos bactéries digestives et notre système immunitaire n'ont pas eu le temps ou n'ont pas su s'adapter à ces évolutions. Comment, en effet, prévoir le retentissement sur nos bactéries de ces produits qui n'existaient pas hier? Des déséquilibres apparaissent et la symbiose qui existait entre nous et nos bactéries est rompue. Place maintenant à la dysbiose. Nos bactéries deviennent moins nombreuses quantitativement et qualitativement avec moins d'espèces ou des espèces différentes. Les conséquences de cette dysbiose peuvent être majeures et expliquer nombre d'inégalités face au développement de maladies. Ainsi, si vous avez une dysbiose, vous serez plus sensible à la prise de poids et à ses complications, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, qu'une personne qui n'aurait pas de dysbiose. De plus, vos bactéries seront malheureuses et vous aurez beaucoup plus de mal à maigrir qu'une personne sans dysbiose, quels que soient vos efforts pour réduire votre alimentation. Les conséquences d'une dysbiose ne s'arrêtent pas aux problèmes de poids et à leurs conséquences. Par exemple, le stress peut devenir un calvaire quotidien pour certains d'entre nous, avec l'apparition de désordres intestinaux et leur cortège d'antidiarrhéiques et d'anxiolytiques. Or, aussi surprenant que cela paraisse, on sait aujourd'hui que notre tube digestif et ses bactéries peuvent être à l'origine du stress, et non le cerveau lui-même. De cette interaction entre l'intestin et le cerveau est née l'idée que l'intestin était comme un deuxième cerveau. Agir directement sur les bactéries peut donc améliorer le stress. Même les dépendances, vis-à-vis de l'alcool ou de toute autre drogue, ainsi que des maladies aussi sévères que l'autisme ou la schizophrénie, sont influencées par nos bactéries digestives. Une dysbiose peut également expliquer l'augmentation de la fréquence de certaines autres maladies. Notre système immunitaire, qui n'a plus à lutter contre les infections, va en quelque sorte se retourner contre nous. Et, avec la dysbiose, vont se développer allergies ou maladies auto-immunes, colite inflammatoire, diabète de type 1. Notre vision des bactéries s'est considérablement modifiée ces dernières années. Alors que nous les pensions uniquement malveillantes, leur rôle bénéfique sur notre santé est maintenant indéniable. Il est fondamental d'appréhender comment, alors que dans le ventre de notre mère nous sommes stériles, nous allons, dès les premiers instants de la vie, être exposés à des milliards de bactéries. Ces premiers contacts sont cruciaux, car les bactéries qui nous colonisent à la naissance nous accompagnent tout au long de notre vie. Le capital bactérien acquis doit ensuite être préservé et fructifié pour nous assurer une bonne santé. S'occuper de nos bactéries, modifier leur ensemble en favorisant celles qui sont bienveillantes, cela signifie adapter notre alimentation, éventuellement utiliser des prébiotiques et des probiotiques, voire soigner certaines maladies par des greffes de sel. Nous nous trouvons à l'aube d'une véritable révolution. Un nouvel organe, le microbiote intestinal, a été identifié. Comprendre le développement et le fonctionnement de cet organe, c'est comprendre pourquoi de nouvelles maladies se font jour et, surtout, comment les prévenir ou limiter leurs effets. Nous connaissons déjà les grands principes à respecter pour démarrer dans la vie, alors que nous sommes encore dans le ventre de notre mère, avec le meilleur microbiote, c'est-à-dire le meilleur capital santé. Nous savons même comment maintenir à l'âge adulte une parfaite symbiose entre nous et nos bactéries. Notre microbiote est modifiable. C'est son originalité par rapport aux autres organes, en bien comme en mal. Ainsi, en cas de dysbiose, de véritables traitements fondés sur des apports de bactéries bénéfiques ont commencé à apparaître et vont se développer. Dans les années à venir, nous aurons même accès à des banques de bactéries bienveillantes pour nous traiter. Avant d'en arriver là, il nous faut comprendre le monde bactérien qui vit dans notre tube digestif et le choyer pour préserver avec lui notre capital santé. Première partie. Vous avez dit microbes ? Quand on pense microbes, on pense aussitôt maladie. Or, un microbe est simplement un tout petit organisme vivant. Pour l'observer, il faut un microscope car il est invisible à l'œil nu. Normal, il est composé d'une seule cellule. Le microbe est donc un organisme unicellulaire quand nous sommes des organismes complexes, comme tout ce qui est constitué de plusieurs cellules. Dans la famille microbe, les bactéries. Les bactéries font partie des microbes. Si je vous dis bactéries, vous allez aussitôt imaginer une maladie ou une infection. Ensuite, vous allez peut-être vous rappeler que certaines d'entre elles permettent la fabrication de yaourts, de fromages. Toutes ne sont donc pas dangereuses. En fait, l'immense majorité des bactéries nous veut du bien. Voici quelques exemples pour comprendre que les bactéries sont capables du pire, mais surtout du meilleur. Les bactéries que l'on trouve dans le yaourt portent les jolis noms de Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ajoutées vivantes dans du lait, elles permettent la transformation du lactose, un sucre naturellement présent dans le lait. Même si le goût sucré qu'il donne au lait est très léger, le lactose est bien un sucre. Sa transformation par les bactéries se fait en absence d'oxygène et s'appelle la fermentation. D'ailleurs, tous les produits de type yaourt contenant d'autres bactéries que Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus sont appelés lait fermenté. La fermentation est un processus biologique, ou plus précisément biochimique, qui permet de transformer une source de carbone, et en particulier les sucres, en l'absence d'oxygène. Les bactéries sont de véritables championnes de la fermentation. Ce processus se produit aussi dans notre organisme. En l'absence d'oxygène, certaines de nos cellules peuvent faire de la fermentation. Vous avez déjà eu des crampes pendant une séance de sport. Eh bien, elles sont dues à une fermentation dans un muscle trop sollicité. Quand vous faites un exercice musculaire intense, le muscle n'est pas toujours assez oxygéné. Pour pouvoir continuer à fonctionner avec moins d'oxygène, il va utiliser son sucre différemment. Il fera de la fermentation lactique, laquelle donnera du lactate. Ce lactate produit une acidité locale, qui s'associe à la fatigue musculaire pour protester et qui provoque la fameuse crampe. Contrairement aux bactéries, nous ne sommes pas des champions de la fermentation, notre apport en oxygène étant suffisant la plupart du temps. Mais revenons à nos yaourts. Le lactose du lait, présent dans les yaourts, est donc transformé par Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus en un produit de dégradation que notre organisme pourra utiliser et assimiler. Ainsi, si vous ne digérez pas le lait à cause de son lactose, vous pouvez manger des yaourts sans être incommodé. Mieux encore, si vous consommez des yaourts, vous pourrez probablement boire un peu de lait sans être gêné, les bactéries du yaourt permettant la digestion du lactose. Attention, si votre intolérance est très forte, les bactéries du yaourt ne suffiront pas. Les bactéries qui transforment le lactose, ou bactéries lactiques, sont tellement bénéfiques qu'un grand nombre de produits à base de yaourt sont désormais enrichis d'autres bactéries pouvant transformer le lactose, comme les bifidobactéries. Ces dernières sont aussi des bactéries lactiques. mais les produits laitiers qui en renforcent